Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International à cette heure tardive, mais après des matchs un peu foufou à travers toute l'Europe. Et nous commencerons évidemment par la victoire du PSG au Parc des Princes 3-2 face au RB Leipzig. Mais quel match! Et surtout, le résultat ne dit pas tout de la confrontation entre ces deux équipes échevelées, peut-on dire. L'équipe allemande a même mené au score. Heureusement, il y avait pour le PSG Kylian Mbappé. Et côté spectacle, un pénalty osé. Évidemment, signé Lionel Messi. Il a signé une Panenka. Martin Guez, dans quelques instants, sera en direct avec nous du Parc des Princes. Une soirée généreuse en but. 5 donc au Parc des Princes et 30 ailleurs à travers l'Europe. 5 inscrits par le Real Madrid avec un doublé de Vinicius. 4 buts pour l'Ajax, dont un de Sébastien Haller. 3 pour Liverpool. Salah et Naby Keita ont marqué et un doublé de Griezmann pour l'Atlético. Voilà pour vous donner envie de continuer à nous écouter. L'équipe surprise des derniers matchs et de la dernière journée, c'était le Sheriff Tiraspol, battu à Milan cette fois. Mais ce club de Moldavie représente aussi une région, la région sécessionniste de Transnistrie. Et nous vous expliquerons, grâce à notre correspondant dans la région, à quoi correspond ce club et cette équipe. Et puis nous évoquerons aussi le Bayern Munich qui joue demain soir, très attendu à Lisbonne par le Benfica. Une équipe qui affiche ses ambitions. Elle veut tout gagner cette année, n'est-ce pas, David Lortolari? Bonsoir.
C'est vrai, bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Les ogres bavarois insatiables, on les connaît. Bonsoir Naby Djellit.
Bonsoir Annie, on peut dire que les bavarois ne font pas de cadeaux en général.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je cherche le jeu de mots, mais on va trouver. Non, il n'y avait pas de jeu de mots.
Bavarois, c'est pas un dessert?
Oui, bah oui.
Bon, il n'y a pas de jeu de mots.
Voilà, il y a... Si, non, mais je vois même que David rigole, donc il a compris. Mais excusez, c'est l'heure tardive, Nabil, je crois
non,
que...
Non, ne vous inquiétez pas.
On a été tous...
Je suis encore sonné par ce que j'ai vu au Parc des Princes, mais on va en parler ensemble.
On va en parler tout de suite. Laurent Salerno est à la réalisation, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission, et il continue à écouter les réactions de ce qui s'est passé un peu partout à travers l'Europe. Radio Foot, c'est parti.
Parc des Princes. Égalisation de Leipzig. Mikiele Aïdara dans la partie de terrain parisienne. André Ligno, le centre immédiat d'André Ligno. Et là, le but de Leipzig. Quelle reprise de volée. Nordi Mukiele qui vient battre Keylor Navas. Attention à ce ballon perdu. Kylian Mbappé qui récupère, qui va rentrer dans la surface. Angle fermé, il arrive à passer à Messi. La frappe, le but de Lionel Messi en deux temps. L'égalisation de Léo Messi. On vous le disait, on le voit pas. Et d'un coup, il surgit, le lutin, pour égaliser à deux partout pour Paris.
Ah bah oui, bon, ça, bon,
ça
oui.
Semble de loin.
C'est Lionel Messi qui s'élance. Une petite panenka et ça rentre. Et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain qui renverse cette rencontre. Ils étaient menés 2-1.
Et oui, le PSG bousculé, mais le PSG a gagné. Les Parisiens ont réussi à renverser la situation. Ils ont gagné grâce à un pénalty. Ils en ont aussi même manqué un. Le RB Leipzig peut s'en vouloir. Et le visage de l'entraîneur américain disait tout, hein, David Lortolari, de la détresse. Il reste toujours à 0 point, surtout hein, le RB Leipzig dans leur groupe.
Exactement, Annie. Il y avait un mélange de frustration parce que c'est le match peut-être le plus plein de cette équipe depuis le début de saison.
Un niveau inattendu. Hein,
bien
niveau
sûr.
De jeu inattendu.
Bien sûr, on avait souligné plus tôt dans la journée tous les chantiers de Leipzig, une défense cette année assez lente, le départ d'Oupé Mécano qu'il faut combler par la jeunesse de Simakan, une attaque un peu éparpillée aussi parce qu'il faut combler le départ de Werner depuis quelques temps et il faut surtout absorber l'arrivée d'André Silva qui jusque-là n'avait pas été dans le coup. Et ce soir, beaucoup de bonnes choses avec l'ingrédient numéro un quand même qui était souhaité. Celui-ci ne peut surprendre personne. L'ingrédient numéro un, c'était la capacité à gagner des duels, à imposer une forte présence athlétique et physique, notamment avec l'équipe alignée au coup d'envoi, des milieux de terrain à vocation plutôt défensive. Et ça, ça c'est un plan de jeu que Jesse Marsh avait imaginé, qui a quand même globalement bien marché.
Qui a plutôt bien fonctionné. Martin Guez, bonsoir.
Bonsoir Ali, bonsoir David, bonsoir Nabil, bonsoir.
Bonsoir Martin.
Salut Martin.
Alors j'imagine que vous aussi vous avez dû vivre au rythme de cette rencontre et c'est vrai qu'on a eu un véritable spectacle sur la pelouse du Parc des Princes en dehors des 5 buts de ce soir Martin.
Ouais, c'est un vrai match renversant qu'on a vécu ce soir. Il a peut-être changé de maillot, David Lortolari. Tout à l'heure, il nous disait qu'il avait un maillot du Bayern sous sa chemise. Peut-être qu'il a mis celui de Leipzig, puisque franchement, ce soir, on peut les féliciter, les joueurs de Leipzig.
Et
on les
a annoncés
seulement 8e. Bah ouais, c'est sûr que 8e de Bundesliga, ils avaient perdu leurs deux premiers matchs. On a l'impression qu'ils étaient grandement en perte de vitesse. Et ce soir, le milieu surtout... On pense au jeune américain dont le nom m'échappe, Tyler Adams, qui était là, ou encore Konrad Leimer. Ils ont été monstrueux par rapport à Gueye et Herrera, d'habitude si bons depuis le début de la saison, mais complètement éteints aujourd'hui dans cette rencontre. Pourtant, c'est Paris, on l'a dit, qui avait ouvert le score. On l'a entendu dans votre petit résumé commenté par Antoine Grenier, hein, un but de Kylian Mbappé dès la 9e. Mais ensuite, Paris a pas proposé grand-chose. Et Leipzig qui a égalisé très logiquement par André Silva, titularisé à la place de Youssouf Poulsen, donc un Portugais à la place de l'habituel Danois. Il avait fait une super saison l'an dernier avec Francfort. Et en deuxième période, on s'est dit peut-être que Paris va se réveiller, peut-être que Paris va enfin proposer quelque chose, un peu de lien entre le milieu et l'attaque. Bah non, on a eu ce but de Nordi Mukiele, et quel centre hein, quand même d'Entrelinho, le piston gauche espagnol. Ensuite, quand on s'en est remis, on s'est cru que Paris allait pas réussir à s'en relever, puisque dans le jeu, ils étaient tellement agressés, ils perdaient tous les ballons au milieu. Verratti en a perdu beaucoup, Marquinhos aussi. On n'arrivait pas à trouver les attaquants, mais quand on les a trouvés, bah justement, c'est sur une perte de balle du malheureux Tyler Adams, qui avait été monstrueux avant de malheureusement offrir un ballon à Kylian Mbappé, qui lui l'a rendu
à
Messi. Exactement, il n'en faut pas beaucoup à l'Argentin, même s'il a eu beaucoup de réussite. Gulacsi la touche, elle retouche le poteau, finalement il la marque de très près. Et puis un pénalty, il me semble incontestable. On n'a pas revu les images, mais Simakan qui pousse Kylian Mbappé dans la surface, c'est un petit peu idiot comme faute, mais ça permet à Messi d'une jolie panenka d'offrir la victoire. Mais vraiment, à l'arraché, on va dire qu'on attendait un Paris qui pourrait se rassurer dans la possession du jeu, qui pourrait un peu construire des actions, pas seulement dans le contre, comme on l'a vu contre Manchester City. On n'est pas du tout rassuré de ce point de vue-là, mais au moins au moral, à l'orgueil, au talent aussi de deux joueurs quand même, Mbappé, Messi, ils ont réussi à renverser la rencontre.
Oui, Martin, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Hein. Mais je voulais demander à Nabil, justement, Martin dit c'est pas une équipe rassurante. C'est un peu ce qu'on avait vu quand même contre Manchester City, et c'est ce qu'on a vu à Bruges, c'est-à-dire que depuis le début de saison, même en Ligue des Champions, les Parisiens sont pas toujours rassurants.
Je vais forcer le trait, peut-être exagéré, peut-être un peu être caricatural, mais est-ce que c'est une équipe ? Je suis désolé.
On s'est déjà demandé dans la première partie de l'émission, effectivement. Alors, collectif et individualité.
Ce soir, il y avait un vrai projet de jeu, un vrai collectif, avec des joueurs de très bon niveau, et on a vu ce que ça donnait lorsqu'il y avait une alchimie, lorsqu'il y avait un état d'esprit, lorsqu'il y avait des automatismes, etc. Non, mais le Paris Saint-Germain, Annie, pour l'instant, effectivement, ça ne retranscrit absolument pas.
Alors ils gagnent, ils sont premiers de leur groupe.
Vous avez deux lectures. Soit le score, c'est super, soit le contenu. On a quand même le droit d'être un peu exigeant à ce niveau-là. Quand on voit que par le passé, il y a eu des équipes, le Real, le Barça, avec des ingrédients peut-être même parfois un petit peu en dessous, qui ont produit du jeu. Le Paris Saint-Germain, depuis le début de saison, concède des occasions, non pas seulement face à City et face à Leipzig, mais même en Ligue 1, ils ont été en difficulté face à Rennes, en difficulté face à Angers et également. Donc,
ils ont perdu à Lorient.
Moi, ce qui m'interpelle, après je lâcherai la balle, c'est que fait le coach ?
Un soliste !
Que fait le coach ? Alors, vous allez me dire, c'est pas facile de gérer le Paris Saint-Germain, mais ces cas-là, 9 millions d'euros par an, vous ne prenez pas le poste.
Il a beaucoup d'absents. Martin, moi, j'aurais voulu vous demander quelque chose, parce que pendant le match, on regardait évidemment tous ensemble ce match, et on se disait, mais où est la défense ?
Ah bah elle était là, hein. Je crois qu'il y avait 4 joueurs quand même qui étaient alignés, mais c'est vrai qu'il y en a un qui a particulièrement souffert, moi je trouve, ce soir, c'est Nuno Mendes, hein, qui a été acheté après coup de temps, 40 millions au Sporting Lisbonne. C'est un super contre-attaquant.
On l'avait vu, effectivement. On l'avait vu très brillant sur une de ses premières prestations avec le PSG.
Exactement. Là, ce soir, Lyon, il était contre Lyon, il avait été très bon. Clairement, il était rentré quelques minutes, c'était prometteur. Mais on sait qu'il est bon offensivement, mais là, qu'est-ce qu'il s'est fait prendre dans le dos de lui? Il est arrière gauche, hein, pour nos auditeurs qui le connaissent pas forcément, latéral, qui le découvrent.
Enfin, il a pas été aidé non plus, Martin.
Parce que il a peut-être pas été aidé, mais qu'est-ce qu'on a vu Nordi Mukiele, qu'on a pas forcément titulaire et qui a fait un super match lui, mais les errements de la défense ont été grossiers.
Je suis d'accord avec vous, mais je pose la question naïvement. Le même Nuno Mendes, vous le mettez de l'autre côté?
Tu veux dire côté droit?
Non, vous le mettez à Leipzig. Vous le mettez du côté des Allemands. C'est typiquement le profil de joueur qui recrute. Je suis sûr que vous le mettez de l'autre côté, vous le reconnaissez pas. Pourquoi? Parce que tout le monde travaille ensemble et quand il faut compenser, on compense. Et au Paris Saint-Germain, c'est chacun joue pour ça,
Sûr qu'on a vu une vraie équipe, un vrai bloc du côté de Leipzig. On revoyait le résumé, on a oublié de parler d'une superbe volée de André Silva qui a fini sur le poteau en début de match. Ils ont fait un match plein, on n'aurait pas dit que c'est une équipe qui est dernière de son groupe, qu'on a pris 6 contre Manchester City, qui a réussi à perdre chez elle contre Bruges, exactement, qui a déjà perdu beaucoup cette saison aussi en championnat. S'il continue comme ça, on voit pas comment il continuera à perdre des matchs, mais c'est sûr que dans l'agressivité, dans le projet de jeu, dans ce qu'ils ont fait du ballon aussi, puisqu'on s'attendait à avoir un Paris enfin dominateur, Leipzig était pas vraiment venu normalement pour faire le jeu, et pourtant avec Antoine Grenier, dans le match qu'on a commenté, très souvent on a dit encore une fois, Leipzig a le ballon dans les pieds, encore une fois il le récupère très haut, encore une fois il propose des phases de jeu, alors que Paris finalement s'en sort avec des comptes, des pénalties et des buts un petit peu cadeaux.
David Lortolari, vous avez vous-même été surpris quand même par la prestation de Leipzig ce soir.
Oui, parce que on sait que si le temps est laissé à l'entraîneur, ça va s'améliorer. Il a proposé depuis le début de saison un tout autre style de jeu que Nagelsmann, en laissant son prédécesseur, donc parti au Bayern, en laissant de la liberté à ses attaquants. Ça marche bien avec Nkunku notamment, ça a bien marché aussi avec Forsberg, le maître à jouer suédois qui n'était pas titulaire ce soir. Et il avait forcément besoin de temps pour non seulement que ses joueurs comprennent un petit peu ses messages, différents de l'an dernier, et puis aussi, on le disait déjà en début d'émission, pour intégrer un certain nombre de recrues. On sait que Leipzig est à marche forcée sur la vente, l'achat de joueurs, et forcément, il lui fallait du temps. Je m'attendais pas à ce que cette équipe puisse réussir un match aussi plein comme ce soir, malgré les erreurs de jeunesse. Hein, il y en a, on l'a vu, ça a coûté des buts. Mais je m'attendais en revanche, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, je m'attendais à cette attitude. Martin, l'entraîneur avait encore une fois proposé un 11 de départ avec un milieu de terrain mordant, avec des joueurs censés gagner les duels, censés prendre le dessus dans le fait de défendre en avançant. Et ça a plutôt bien marché. Après, il y a des surprises aussi. André Silva, qui a été décevant depuis le début de saison, je m'attendais pas à ce que ça se mette au diapason ce soir. Et la frustration et la tristesse passée, pour Jesse Marsh, il y aura peut-être quand même des bonnes choses à retenir sur la prestation du soir.
Martin. Et pourtant, David, vous l'avez vu l'an dernier, hein, André Silva, il a mis 28 29, buts avec l'Eintracht Francfort. Voilà, bon, quand il y a Lewandowski quand même 42, on peut pas vraiment rivaliser pour le titre de meilleur buteur, mais relativisons comme ça.
Tout à fait.
Un très bon joueur, il est passé par le Milan AC aussi, et ce soir, il a retrouvé son ballon, pas tout le match, puisqu'il a fini par être remplacé par Youssouf Poulsen. Vous parlez du milieu, ils ont été impressionnants, que ce soit Aïdara, Tyler Adams, ou moi vraiment, c'est ce Konrad Laimer qu'on connaît un petit peu moins, hein, l'Autrichien. On s'attendait à Kevin Kumpel, qui est là titulaire un petit peu tout le temps, alors qu'il y a des échauffourées étranges qui éclatent là dans les tribunes du Parc des Princes. Il n'y a plus personne à part des stadiers et quelques ultras de la tribune Auteuil. Voilà, ça, distribution de marrons chauds, heure très tardive.
Oui,
ici,
parce qu'il n'y a pas d'ultra côté Leipzig encore, hein, ça n'existe pas.
Alors si, quand même quelques ultras, mais ils sont venus, ils étaient nombreux. Hein, on en a parlé avec Antoine Grenier dans l'avant-match, ils étaient venus, on les a croisés en train de manger dans les quelques restaurants qui sont autour du Parc des Princes. Ce soir, ils ont dû quand même se régaler. Ils ont bien fait de faire le déplacement. On a encore vu un très bon Christopher Nkunku. Bon, ça, on le savait. On le répète depuis le début de la saison. Je ne sais pas non plus ce que vous pensez, David, de Nordi Mukiele, qui n'était pas tout le temps titulaire sur ces derniers matchs. Parfois, c'était plutôt Klosterman qui pouvait être décalé un petit peu côté droit, mais là ce soir il fait un vrai très beau match, hein. Le français, il marque le deuxième but, il a été très précieux défensivement, offensivement, c'est un peu un monstre physique et il a été dans tous les bons coups.
Oui, et les supporters, les sympathisants en Allemagne aimeraient, pousseraient pour que Le sélectionneur de l'équipe de France pense aussi à ces joueurs-là, Nkunku. On imagine qu'il attend encore plus de constance, Didier Deschamps, pour l'appeler. Et puis Mukiele, ça devient intéressant aussi. Là aussi.
Qui a déjà une sélection contre la Finlande.
Ouais, ouais, mais qui manque peut-être encore de constance pour vraiment pouvoir être indiscutable dans un 11 de départ avec ce club.
Alors en tout cas, un homme, même si à la fin du match, il a encore manqué un penalty, et je pense que ça va un peu le poursuivre, le pauvre Kylian Mbappé, mais il a fait un match plein. Pour nous, du côté Paris Saint-Germain, on trouvait que c'était l'homme du match. Kylian Mbappé, on va l'entendre, il s'est exprimé au micro de nos confrères de Canal+, en fin de partie.
C'était un match difficile. En Champions League, tous les matchs ils sont difficiles. La Ligue des Champions, c'est difficile. C'est les meilleures équipes du monde. Leipzig, c'est une bonne équipe. Nous, on était à domicile. On voulait gagner. On l'a fait. On a eu des séquences de jeu où on était installés dans leur camp, où on a réussi à vraiment bien combiner, à être dangereux et à les mettre en difficulté. Après, il y a des périodes dans le match. Je pense que c'est la gestion des temps faibles. Les gestions des temps faibles, peut-être qu'on a eu des temps faibles qui étaient un peu trop faibles, mais je pense pas que c'était de la chance aujourd'hui.
L'analyse de ce match par Kylian Mbappé, pour vous aussi, c'est le meilleur Parisien.
De toute façon, soyons honnêtes, sans lui, qui a un accélérateur de particules incroyable, qui donne de la profondeur, c'est le néant. Mmh. C'est le néant. Ensuite, Messi peut être touché.
Ils sont pas. Alors, sur le deuxième but, évidemment, c'est le contre-exemple et il se trouve très bien. Mais on n'a pas senti qu'il y avait une
fluidité naturelle, je suis d'accord avec vous. Même si sur le troisième ou le deuxième but, Mbappé fait quelque chose d'extraordinaire
avec une passe égalisateur.
On pensait qu'il allait filer au but tout seul dans ce genre de situation et faire une frappe croisée. Il a topé une passe cachée pour Messi qui ensuite fait parler de son talent. Là-dessus, c'est pas encore quelque chose de naturel, mais ça, à la limite, c'est pas ça qui me choque le plus, Annie, parce que Messi vient d'arriver au Paris Saint-Germain, il connaît pas encore totalement Mbappé et réciproquement, même si Mbappé a dû l'admirer à la télé comme nous tous, évidemment. Non, ce qui est pas normal, c'est l'animation collective du Paris Saint-Germain. Les joueurs côté ne sont absolument pas liés de Mukiele. De l'autre côté, du côté du Paris Saint-Germain, on ne voit pas de joueurs qui proposent, on ne voit pas de joueurs capables d'apporter du surnombre sur les côtés, on ne voit pas d'animation.
Hakimi, qui d'habitude.
Mais Hakimi, il a beaucoup joué ces derniers temps, il a joué aussi avec le Maroc. Le milieu de terrain, Gueye, qui a été fantastique depuis le début de saison, il est juste redevenu normal, ça s'est tout de suite vu. C'est-à-dire qu'il n'a pas été particulièrement mauvais, il n'a pas été stratosphérique comme il l'avait été face à Manchester City. Tout de suite, c'est tout le
et
château.
Même Verratti a eu du mal.
Verratti, après, dans la conservation du ballon, dans le vice sur la fin, il apporte quand même son expérience. Fin, mais franchement, vous parliez, Martin parlait à juste titre du milieu de terrain de Leipzig. Ce soir, c'est pas la meilleure équipe qui a gagné. Hein, je vous le dis, hein, très honnêtement, le Paris Saint-Germain est sauvé par ses stars et notamment un garçon qui est extraordinaire avec le Paris Saint-Germain qui lui est tout le temps là. C'est Kylian Mbappé.
Toujours.
Je ne fais pas référence à Neymar qui est là à mi-temps, mais c'est vrai qu'il était absent le Brésilien encore une fois, et c'est son équipe qui en pâtit aussi.
C'est
vrai que c'est.
Allez-y Martin, pardon.
Non, c'était pour rebondir sur ce que disait Nabil, ce côté, on s'en remet à deux trois individualités, même si Messi et Mbappé n'ont pas beaucoup combiné entre eux. C'est vrai que c'était frappant de les voir revenir très bas, chercher les ballons au niveau de Marco Verratti et tenter à chaque fois de se retourner, de passer des dribbles et d'accélérer, puisqu'ils aiment bien partir de loin. Mais ce qui a vraiment été frappant, c'est ce manque de lien, comme le soulignait Nabil. Le milieu n'arrivait pas trop à communiquer avec l'attaque. Les défenseurs avaient beaucoup de mal à se dégager du pressing assez incroyable des joueurs de Leipzig. Et au milieu de tout ça, à part Verratti qu'on cherchait beaucoup et qui avait souvent un, deux, trois joueurs sur le dos, c'est vrai que Gueye et Herrera ont un petit peu coulé. D'ailleurs, je pense que Pochettino l'a bien compris, puisqu'il il a changé les deux en même temps, un peu après le retour des vestiaires. Et c'est vrai que même s'ils n'ont pas beaucoup combiné, Mbappé et Messi, heureusement ce soir qu'il y a deux grandes stars pour sortir ce PSG-là de ses travers, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas eu de belles phases de jeu et ça s'est vu avec l'opposition adverse qui vraiment a joué en équipe et un jeu de transition en une passe, en deux passes ou très rapidement remonter 60 mètres avec des joueurs très mobiles par rapport à des Parisiens un petit peu arrêtés.
On peut signaler juste un mot sur Nkunku quand même, qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui ce soir, encore une fois, et David en avait parlé, a été quand même énorme. Lui qui n'a pas été vraiment valorisé du côté du Paris Saint-Germain,
qui n'avait pas ce niveau-là non plus quand il était
quand on développe les joueurs, on n'a pas besoin d'aller en payer à 40 ou 50 millions d'euros qui sont ensuite moyens sur le terrain et qui parfois ne sont pas là. C'est ça aussi que je voulais dire.
David.
Nkunku, pour terminer sur ce point, progression l'an dernier, mais très encadrée avec des consignes précises de la part de Nagelsmann, et cette année, une progression supplémentaire, un palier, une marche supplémentaire pour lui, parce que plus de liberté d'action, plus de capacité à passer du milieu axial au côté, donc c'est vraiment une progression intéressante. Effet pervers, me semble-t-il, côté PSG. Jusqu'à quand les individualités qu'on identifie aisément, un bon Navas dans les buts, un bon Marquinhos Navas, dans la défense centrale.
Il a sauvé plein de choses en début de match.
Un Verratti expérimenté, capable de tenir le ballon. Et les stars de devant, jusqu'à quand ces quelques joueurs-là, avec les éclairs d'Hakimi éventuellement en attaque, mais ses faiblesses en défense. La même chose de l'autre côté, dans la défense latérale aussi. Jusqu'à quand ces ingrédients-là, qui sont donc une addition de virtuoses individuelles, vont permettre au Paris Saint-Germain de l'emporter? C'est la question cette saison.
C'est la très bonne question, n'est-ce pas, Martin? Pour terminer.
Ouais, je sais pas trop si j'ai la réponse. Je sais pas si quelqu'un l'a, cette fameuse réponse. Ça fait combien d'années qu'on dit que le PSG a des individualités, un super, des joueurs incroyables partout, mais que souvent ça pêche un petit peu dans le jeu. Finalement, quand est-ce qu'on a vu vraiment le PSG excellent dans le jeu cette saison? Ça a été, même s'il y a eu beaucoup de victoires, hein, même en Ligue 1, on l'a souvent souligné, hein, des victoires à l'arraché contre Lyon, contre Angers encore ce week-end. Il y a eu un joli 4-0 peut-être contre Clermont, mais Clermont promu un peu, qui s'était présenté, hein, avec des absents un peu victime expiatoire ce jour-là au Parc des Princes. On attend que ça prenne, on attend que la mayonnaise, je ne sais pas comment appeler ça, si y a un chef cuistot avec nous pour nous expliquer ce qu'on voit sur le terrain, parce que finalement c'est pas mauvais et ça laisse le PSG premier de son groupe avec 7 points ce soir. Donc on est peut-être un petit peu dur, puisque sur le plan comptable finalement c'est Paris qui mène dans un gros groupe, hein, Leipzig dans le groupe, Manchester City qui n'est que deuxième finalement et qui a perdu contre ses Parisiens. Mais c'est vrai qu'on reste toujours éternellement sur notre fin, et on se dit, si jamais il n'y avait pas eu ce petit coup de rein de Kylian Mbappé, si jamais ce petit éclair de génie de Lionel Messi, bah peut-être que Paris ne serait pas Marie et que Paris ne serait pas magique.
Et oui, ça serait sans doute ça, et c'est sur ça qu'on va se quitter. Merci beaucoup Martin Guez d'avoir été en direct avec nous. Eh bien,
merci à vous.
Depuis plusieurs heures, vous étiez au Parc des Princes.
On ne s'arrête jamais, puis au revoir à Nabil et à David. Bonne soirée à tout le monde.
Merci Martin, et bravo pour tout ce que vous faites.
Ouais, merci. J'aime bien aussi ce que vous faites.
Merci beaucoup Martin. En tout cas, c'est vrai que ce Paris Saint-Germain interroge toujours, mais se cache aussi toujours derrière cette chose qu'ils sont comptablement ils font ce qu'ils font.
Ouais, après il y a la vérité. Il y a la vérité de l'automne. Donc si vous êtes un peu positif, c'est qu'il y a une marge de progression collective pour le mois de
puis tout le monde sera peut-être revenu aussi pour les prochains
février
matchs,
dans un autre état de forme, et aussi Di pas Maria, oublier peut-être le retour on peut leur souhaiter de Ramos. Parce que ce soir, ils ont été bousculés. Moi, j'ai senti qu'il manquait un patron.
Le retour ou l'arrivée de Ramos?
C'est une bonne question.
Il n'a pas joué encore.
C'est une bonne question.
Il n'a pas joué. Moi, j'appellerais ça une arrivée, mais bon, je vous laisse. Voilà pour ce qui est de cette équipe. Restons sur le groupe, juste quand même, avec la balade belge, on va dire, de Manchester City. Score contre Bruges. Alors Bruges, qu'on avait beaucoup aimé contre le Paris contre le Paris Saint-Germain, qui avait réussi à arracher un match nul.
Qui ont battu Leipzig également, vous avez raison de rappeler.
2-1 en Allemagne en plus. Ouais.
En plus.
Donc c'est l'équipe qui est encore concernée par les...
Exactement, elle a 4 points. Mais en tout cas, là, cette équipe, elle est tombée vraiment sur une équipe en ultra forme. Ils ont pris un but contre leur camp, c'est ça, dès le début.
Ils ont résisté à peu près 30 minutes.
Voilà.
Mais ils étaient toujours sur un fil avec des buts refusés pour des hors-jeux au millimètre. Ouais. Et ça a fini par céder parce que il y a trop de talent, il y a trop de certitudes collectives, ça vient de partout. De Bruyne, Mahrez, Foden également.
Doublé de Mahrez.
Voilà, doublé de Mahrez, un penalty et puis un but sur la fin. Et cette équipe de City, elle n'a pas souffert face à Bruges comme le Paris Saint-Germain, parce que elle a mis les ingrédients nécessaires et elle a pris les devants très vite face à cette équipe de Bruges qu'il faut pas enterrer. Vous avez raison, parce que c'est une équipe qui est encore concernée. Soit par une qualification directement en huitième de finale, soit en Europa League via une troisième place. Donc voilà, eux ils font leur tournoi.
Le premier but c'était de Cancelo en fait.
Cancelo, premier, ouais.
Et après il y a le penalty de Riyad, Mahrez, et c'est vrai que là il n'y a pas eu de but contre son camp. C'était pas sur celui-là.
Non, c'est côté Dortmund. Ajouter simplement une petite touche individuelle pour le coup. Nabil parlait d'addition de talent côté Manchester City. Il y a un vrai beau talent, quelques-uns, mais en particulier un côté Bruges. C'est celui qui marque le but ce soir, Van Aken.
Oui.
Ça c'est un beau joueur.
J'aime bien ce joueur.
Très beau joueur.
Du côté de Bruges, on en a repéré plusieurs d'ailleurs.
C'est dommage qu'ils soient dans une poule aussi relevée, parce que ça ressemblait potentiellement à une équipe surprise qualifiée en huitième de finale. Mais attention, Le football, c'est pas terminé, donc franchement, ils peuvent jouer crânement leur chance encore.
Alors là où il y a eu du spectacle ce soir, un match incroyable, eh bien c'était du côté de
Madrid.
Madrid avec ce match Atlético de Madrid Liverpool où c'est d'abord les
matelassiers.
C'est d'abord Liverpool.
Alors, c'est d'abord Liverpool
avec Momo Salah d'abord sur
exactement
un but à la Messi avec de la réussite puisqu'il a été contré.
Incroyable.
Alors il a repiqué.
Il a repiqué. Voilà. Il est face à un mur de Diego Simeone quand même. C'est pas rien.
Et Oblak, il faut rajouter parce
que voilà. En plus,
Là c'est pas un mur, là c'est un barrage. C'est le barrage d'Assouan. Il a percé le barrage d'Assouan.
Au bout d'un quart d'heure, cette équipe menée. Alors après, il y a le but de Naby Keita qui
magnifique.
Est très beau.
Oui, qui revient très en forme avec Liverpool.
Ouais.
Et ça fait plaisir pour lui parce qu'il avait été un peu en difficulté ces dernières saisons.
Bah oui,
parfois 12e homme, parfois blessé. Mmh. Et là, avec le départ de Wijnaldum notamment, on sent que Jürgen Klopp compte un peu plus sur lui.
Exactement. Et ensuite, eh bien, on a un doublé. Alors tout ça en première mi-temps, hein, on a un doublé de Antoine Griezmann, absolument incroyable. Et puis il y aura un penalty en fin de match à la faveur de Mo Salah. On se demande s'il y en a pas un à la faveur de l'Atlético Madrid. Il n'y en aura pas finalement. Il y a VAR et l'arbitre dira que non. Mmh. Et il y a l'exclusion de Griezmann. Griezmann exclu sur un mauvais geste, mais totalement involontaire.
Oui,
David, hein,
mais
c'était presque trop dur.
Oui, Annie, exactement.
Moi, je suis pas d'accord avec vous. Là.
Ben, c'est-à-dire, là, il envoie ses crampons très très haut dans un duel. Je sais plus quel est. C'est Firmino, je crois, côté Liverpool, qui reçoit le soulier dans la figure.
Ouais, il a quand même quelques marques au visage.
Très très très. Très involontaire forcément parce qu'il est pas là pour casser la figure de son adversaire. Mais Griezmann se montre surpris au moment où l'arbitre. Propose le carton rouge et alors c'est curieux parce que dans la même soirée il y a le même geste de la part d'Ibrahimovic qui me semble-t-il
sur un joueur de
côté
Porto.
Milan qui me semble-t-il n'est pas sanctionné.
Ouais, mais
non.
C'est pas le même charisme.
Non, c'est pas le même.
Mais entre nous pour Griezmann, on sait tous que c'est un bon joueur, pas un joueur méchant, un joueur fair-play, mais l'intégrité physique de Firmino a été mise en danger même
bien
si
sûr.
C'est involontaire. Mmh. Et à un moment le football c'est pas Shaolin Soccer.
Non, bien sûr.
Je veux dire en boxe, en arts martiaux, on dit que c'est un high kick, quoi. Il lui a mis un coup dans la tête et ça
c'est
peut
dangereux.
Faire, ça peut faire très mal. Bon, bah, voilà, c'est plus une maladresse.
Voilà.
Mais le carton rouge n'est absolument pas scandaleux.
En tout cas, non, c'était plutôt malencontreux de la part de Griezmann.
Voilà,
c'est
on
ça
sait
qu'on...
très bien que, voilà, il a pas fait exprès, mais
en tout cas, ça n'a pas aidé l'Atlético à tenir un éventuel nul de 2 parce qu'à la fin, il craque aussi, quoi.
Il craque à la fin sur un mauvais, sur une faute et effectivement, ils ont terminé le match à 10. Donc, c'était compliqué. En tout cas, dans ce groupe, quand même, eh bien, on a Liverpool devant en échapper et puis derrière. L'Atlético Madrid et le FC Porto qui se tiennent alors que le Milan AC qui a été battu
ce soir
à Porto a 0 points dans ce groupe.
Avec un but d'un joueur qu'on apprécie, Annie, particulièrement. Nous, ici, c'est le Colombien Diaz, franchement, qui est un joueur de côté qui percute et moi, je pense qu'on va rapidement le retrouver. Alors, Porto, c'est un top club, mais je pense qu'il va rapidement faire ses valises pour un club dans un grand championnat. En Italie, en Espagne ou en Angleterre, et Porto qui est toujours là, qui lâche rien. Quant à Milan, c'est un retour sur le devant de la scène, mais l'objectif aussi pour eux, c'est un peu la Serie A, où cette année, très sincèrement, c'est ouvert. Naples,
exactement.
L'Inter, on en
ils
parle souvent
deuxième.
Ici, la Juve, donc voilà.
Ouais.
Et les scénarios n'ont pas été favorables malgré des prestations. C'est un peu comme Leipzig. Franchement, on les voit jouer, on se régale. Il y a du jeu, mais la pièce est retombée du mauvais côté.
Et Zlatan est rentré en fin de match parce qu'il revient. Ouais. Hein, il était déjà revenu en championnat. Il est en train de revenir, mais malheureusement, il n'a pas réussi à faire basculer le résultat. Le Real Madrid, évoquons le Real Madrid. Alors, le Real Madrid, eux, ils étaient un peu mal partis et ils sont allés jouer au Shakhtar Donetsk. Mais justement, dans ce groupe, eh bien, il y a une équipe qui est toujours première à la différence de but, c'est le Sheriff Tiraspol. Et on va en parler de cette équipe qui jouait chez les Nerazzurri et de l'Inter. Allez, on vous le dit, ils ont été battus, mais quand même, c'était les héros la dernière fois. Non seulement ils étaient en tête du groupe, mais ils étaient en tête du groupe parce qu'ils avaient battu le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Une équipe de Moldavie très particulière que l'on évoque avec le correspondant de RFI dans la région, Régis Janté. C'était dans la première partie de Radio Foot.
Incroyable le but sont en train de perdre 2-1 face au Moldave.
Là, c'est l'infiniment petit qui bat l'infiniment grand en Espagne, quoi.
C'est incroyable. Sheriff Tiraspol gagne à Bernabéu sur le terrain du Real Madrid. 2-1.
Alors, on n'a pas tiré sur le shérif. Au contraire, ils ont été à l'origine d'un vrai hold-up, hein, parce que ils n'ont pas tiré beaucoup ce soir-là, mais à chaque fois, c'est passé et ils ont donc émergé tout d'un coup sur la scène européenne en battant le Real de Madrid sur sa propre pelouse. C'est une équipe sur laquelle on va porter un petit éclairage. Une équipe de Moldavie, mais le club est en fait s'entraîne dans une région qui s'appelle la Transnistrie. Régis Janté, le correspondant d'RFI en Géorgie, est avec nous car il comprend, il va nous décrypter un peu ce contexte. Bonjour Régis.
Bonsoir à vous.
Régis Janté, donc cette équipe, d'abord, est-ce qu'elle est très populaire en Moldavie ou seulement dans cette petite bande de terre entre la Moldavie et l'Ukraine ?
Ben c'est un peu ambigu. Alors évidemment, avec leur succès, ils deviennent quand même très, très célèbres. Et puis, dans les 23 derniers championnats, ils en ont remporté 19. Donc, ils sont plutôt, évidemment, les grandes stars de la Moldavie, qui est un tout petit championnat à 8 équipes. Hein. Ils n'en ont pas trouvé 9, il n'y en a que 8 seulement. Donc, c'est un peu compliqué. En fait, c'est ambigu parce que cette région, la Transnistrie, c'est une région séparatiste. Pour des régions historiques, politiques, géopolitiques. Et il y a plusieurs régions de cette nature, d'ailleurs, dans l'ancien espace soviétique. Ça a toujours quelque chose à voir avec la Russie, quelque part, qui assoit son pouvoir de cette façon. Et en fait, la Transnistrie, c'est un peu le renégat, la partie paria de la Moldavie qui échappe au contrôle politique de la ville, du pays. Et donc, ils sont un peu mal vus, en quelque sorte, quoi. Mais devant leur succès, et a fortiori devant leur succès de cette année, évidemment, ça change un petit peu la donne.
Oui, c'est une équipe un peu bizarre, tant du point de vue de l'effectif. Il y a 3 Moldaves, je crois, et c'est pas ceux qui sont titulaires. En tout cas, ils n'étaient pas titulaires au départ, par exemple, au Real Madrid. Mais surtout, le propriétaire aussi, qui est un peu un homme puissant et très riche, qui dirige tout dans cette région-là.
Effectivement, parce qu'en fait, ces régions séparatistes, en fait, c'est quoi ? Ce sont des régions qui sortent du contrôle de leur pays, en l'occurrence la Moldavie. De là où je me parle, en Géorgie, il y a 2 régions de cette nature qui s'appellent l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud. Il n'y a presque pas d'équipe de foot là. Et en fait, ce sont en quelque sorte des zones de non-droit. Donc, les propriétaires du stade, du club du shérif, en fait, ont fait fortune avec la contrebande de cigarettes, avec la vente d'essence, avec des choses comme ça. Ce qui fait que, et tout ça dans un contexte très politique où par exemple Monsieur Goussan, le président du club, est aussi un ancien du KGB soviétique, si vous voulez. Donc voilà, des gens comme ça qui évoluent dans ces zones grises, dans ces zones de non-droit. En l'occurrence, en Moldavie, il y a un lien, alors c'est à la fois une région séparatiste et en même temps on trouve un terrain d'entente avec la Moldavie, et on s'en sert aussi d'une certaine manière pour pousser ses revendications politiques, faire parler de soi, parce qu'on voudrait obtenir l'indépendance, etc. Donc on essaie, à travers le football, de se servir de la chambre d'écho du football pour avancer les revendications politiques et puis aussi gagner de l'argent.
Régis, est-ce que vous qui êtes dans cette région, vous avez l'impression que ça marche ? Est-ce que même ça donne des idées autour à des régions comme ça qui veulent s'illustrer et qui choisissent le soft power ? Alors on voit ça évidemment du côté du Moyen-Orient, mais là, est-ce que ça marche ?
Oui, en tout cas, ils font constamment l'effort. Alors, il y a plein de cas de figure. Chaque région a son histoire, sa spécificité. Il y a un autre club dont on a entendu parler. C'était notamment pendant la saison 2017-2018, puisqu'ils ont aussi atteint la phase finale de la Champions League, qui était le FC Karabakh. Alors là, c'est une équipe de l'Azerbaïdjan, comme son nom l'indique, d'une région qui s'appelle le Karabakh, qui d'ailleurs, il y a un an, a fait l'objet d'une guerre assez terrible entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a eu 6000 morts lors de ce conflit de 7 semaines, il y a un an exactement. Et c'est un club qui était soutenu par le groupe Azersun, qui est très proche du pouvoir politique et qui a mis pas mal d'argent dans le club pour justement faire parler de cette cause. L'Azerbaïdjan, en l'occurrence, avait perdu la région du Karabakh et voulait le porter sur la scène internationale pour expliquer qu'ils étaient victimes du séparatisme, etc. Et donc, ils ont mis un peu d'argent dans ce club et ça a plutôt marché pour une fois, pour une saison en tout cas, ils ont atteint la phase finale de la Champions League. Ouais. Et puis on a aussi toutes ces régions séparatistes, il y en a plein dans le monde. on les connaît pas. Et mais je vous parlais par exemple en Géorgie de l'Abkhazie. Eh bien, cette région, par exemple, a organisé un championnat du monde de la Confédération des associations de football indépendantes, s'appelle la CONIFA, et qui rassemble justement toutes ces régions, toutes ces entités séparatistes qui ne sont reconnues par personne, qui ne sont pas reconnues par l'ONU, qui ne sont pas non plus reconnues par la FIFA, bien sûr, et qui organisent leur propre championnat. Alors, ça se passait en Abkhazie. C'est l'Abkhazie qui a gagné, d'ailleurs, à domicile. Et il y avait des équipes, par exemple, du Punjab, de la Chypre du Nord, du Kurdistan, de Laponie, de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire la partie orientale de la Turquie, etc. Une équipe aussi de Somalie. Donc, voilà, ils organisent leur championnat du monde, je crois qu'il y en a eu trois jusqu'à présent, pour effectivement essayer de se faire reconnaître sur la scène internationale et faire parler d'elle à travers d'autres choses. Et dans toute la région, on utilise beaucoup ces moyens. Alors parfois c'est le football, parfois c'est les championnats du monde de domino ou bien évidemment l'Eurovision.
Oui, ça on en a déjà entendu parler effectivement et c'est beaucoup plus coloré, on va dire, c'est l'Eurovision. Bien, merci beaucoup Régis Janté de cet éclairage sur ce club qui nous a un peu tous étonnés l'autre jour du côté de Madrid. Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
Et cette équipe, Jean, justement, du Sheriff Tiraspol, eh bien, elle est toujours en tête de son groupe, mais le Real Madrid a le même nombre de points. Ils ont été battus ce soir, assez logiquement, par l'Inter Milan, cette équipe, David ou Nabil.
Oui, mais sans être ridicule, très sincèrement, ils sont même revenus à la marque à un moment. La belle histoire continue pour eux. De toute façon, c'est que du bonus, même si...
C'était sur le score de 3-1, ouais, 3-1 finalement.
Ouais, ils sont venus
c'est
en partout.
C'est Thiel, le luxembourgeois qui avait déjà marqué.
Mais qui est-il?
Il y a eu des jeux de mots d'Olivier Pron plus tôt dans la soirée, donc vous êtes parfaitement...
Il a fait aussi, Olivier?
Non, pas celle-là.
Pas celle-là mais... Il a fait quoi, Olivier?
Thiel l'Espiègle, qui est une référence littéraire allemande.
Non, mais donc le shérif Tiraspol, il avait déjà marqué, c'est lui qui avait marqué à Bernabeu.
Ouais, mais de toute façon, c'est un rêve éveillé pour beaucoup de joueurs, je veux dire, de se déplacer, de jouer face au Real, de jouer face à l'Inter. Et il y a aussi quand même un coup à faire, parce que encore au classement, c'est David qui en parlait tout à l'heure.
Oui, ils ont des points, donc
Même une qualification en Europa League, franchement, ce serait top. Hein.
Parce que cette saison, le Shakhtar Donetsk est en déconfiture et il pourrait en profiter.
Un point seulement. Du côté de l'Inter Milan, a signalé que Dzeko et Vidal ont inscrit deux des trois buts.
Les vétérans.
Le Real, ouais, exactement.
Toujours là.
Le Real Madrid. Alors là, c'est pas des vétérans parce que Vinicius, alors 5-0, hein, justement, à Donetsk. Un doublé de Vinicius Junior et de l'autre brésilien Rodrigo. Et puis en fin de partie, là aussi il y a eu un but contre son camp, c'était là que le match avait commencé ainsi. Karim Benzema qui a marqué un but et qui est devenu le quatrième meilleur buteur de l'histoire de ce club merengue, 290e but. Et la question lui a été posée, il répond à nos confrères sur cette prouesse, on va dire, de Karim Benzema.
Le plus important, moi, c'est la victoire. Parce que même si j'aurais pas marqué, on aurait gagné 4-0. J'ai fait un bon match. Après, c'est sûr que ça fait toujours du bien de marquer, de me rapprocher des grands joueurs comme tu viens de dire. Mais pour moi, le plus important, c'est de prendre du plaisir comme j'ai fait ce soir sur le terrain. Et à chaque fois, si je peux marquer ou faire des passes décisives, c'est que bonus.
Nabil, prendre du plaisir, mais Karim Benzema...
Et en donner aussi. Surtout,
plus,
d'ailleurs.
En plus. Mais chaque saison, on a l'impression qu'il est meilleur.
Oui, c'est ça. Il repousse ses limites. C'est fantastique. On l'a longtemps associé, finalement, à un peu un Scottie Pippen de Cristiano Ronaldo, comme il l'était avec Jordan. Mais aujourd'hui, c'est lui le leader du Real. C'est lui qui porte le Real. Et on a l'impression d'une deuxième carrière qui a débuté. Et qui se retranscrit dans son influence, même dans sa manière d'être, on le sent plus joyeux, plus souriant, plus relâché, et il transpire le plaisir, ouais. C'est ça, quand tu le regardes jouer, il transpire le plaisir.
David Ortolari, une deuxième carrière, et en plus, alors non seulement il y a tout ce qu'il fait au Real Madrid, où il est depuis 11 ans, hein, c'est ça, Nabil, alors, 12 ans.
2009.
Oui,
ouais, 2009. C'est 12 ans, 12 saisons.
Mais en plus, il est revenu chez les Bleus, et c'est vrai que du coup, on a l'impression que...
Oui, il y a une chape de plomb qui... Il y a un truc qui s'est libéré en lui, quoi.
Incroyable.
Oui, mais
on l'a vu excellent avec les Bleus dans ce tournoi final de Ligue des Nations.
Exceptionnel contre l'Espagne.
Alors totalement d'accord avec ses immenses qualités. C'est un joueur soyeux et merveilleux, un football velouté qu'on adore. Mais l'attaque du Real Madrid, le Real Madrid de manière générale sera-t-il à la hauteur de Benzema cette saison? On les a vus très mauvais plutôt dans cette campagne de Ligue des Champions. On n'est pas en février, mars, avril encore, mm-hmm. bien sûr.
Non, mais, et puis en championnat, alors pour l'instant, ils ne sont pas premiers parce qu'ils ont un match de retard, mais oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus flamboyants.
Oui. Et moi, je me demande, en attaque particulièrement, dans le secteur offensif de ce Real Madrid, s'il y aura suffisamment d'apport autour de Benzema pour que vraiment cette équipe soit compétitive cette saison. C'est une question.
Il y en a un qui a disparu, c'est terrible. On a l'impression qu'il est rayé du football, de la carte du football. On l'a vu avec la Belgique à la Ligue des Nations. Mais où est Eden Hazard? C'est incroyable. Ce soir, vous parliez des deux Brésiliens, Vinicius et Rodrigo, qui assistent un peu Benzema. On sait que les Brésiliens, en plus, aiment bien jouer à Donetsk. Bon, ces deux-là jouent du côté du Real, mais le flop...
En face, il y en avait.
Voilà, le flop monumental pour Benzema, parce qu'on pensait que Hazard, dans un autre registre, il allait remplacer Ronaldo. Évidemment, pas dans celui de Cristiano, mais ça met encore plus en valeur ce que fait Benzema, parce qu'au final, il a deux rookies brésiliens de grand talent autour de lui. Après, évidemment, à d'autres étages. Ce soir, on a quand même vu aussi dans certaines transmissions encore la qualité de Modric. C'est Mozart, quoi.
Ah ben, vous parlez de Modric. Modric, ballon d'or, on s'en souvient, après la Coupe du Monde en...
Annie, Mozart était déjà mort à cet âge-là, malheureusement. Malheureusement.
Mais écoutons Karim Benzema, parce que la question lui a été posée, est-ce qu'il y pense, lui, au Ballon d'Or? Parce que tout d'un coup, on murmure de plus en plus son nom.
C'est surtout une source de motivation, je dirais. Mais toujours avec le collectif qui va avec, même si c'est un trophée individuel. Et comme je le dis, tous les joueurs doivent l'avoir dans un coin de la tête. Mais moi, en tout cas, c'est une source de motivation. Ça me pousse encore à faire de belles choses, comme j'ai montré encore ce soir, et m'entraîner encore dès demain.
Tout est encore possible, oui, Nabil, hein, pour le vote, puisque le vote est encore ouvert.
Bah, on est dans le sprint final, c'est jusqu'au 24 octobre. Et même si, effectivement, vous êtes jugé sur votre année civile de 2021, bon, bah, je vais faire un peu impensif, c'est un peu comme en boxe. Les dernières images, les dernières émotions, les derniers rounds comptent. Ce but face à l'Espagne en Ligue des Nations, ce record dont vous avez parlé, qu'il a encore fait tomber. Et quand votre nom est associé quand même à Di Stefano, à Cristiano Ronaldo et Raoul, ça veut dire que vous êtes un joueur de niveau Ballon d'Or.
Un petit, mais un trophée continental aussi quand même. Hein,
tout à fait.
La Ligue des Nations, même si c'est un trophée tout à fait. Nouveau, mais qui peut valoir une Copa América.
Et puis le Real. Et d'ailleurs, à ce titre-là, par exemple, même si les perfs de Lewandowski en termes de stats purs sont meilleures que celles de Benzema, le fait qu'il incarne le Real, je suis persuadé que ça compense ce petit écart de stats.
Oui, je suis assez d'accord, parce que on en dira sans doute un mot plus tard dans la saison, mais Lewandowski est quand même très bien entouré, précisément en attaque au Bayern. Et pour moi, il est un candidat sérieux, mais Benzema, ce serait magnifique, ce serait merveilleux pour valoriser aussi Annie, un joueur éminemment altruiste, très très artiste quand il est nécessaire, tout seul, buteur aussi, mais c'est un joueur qui est capable de s'effacer aussi. Benzema, beaucoup de qualité quand même pour un trophée comme ça.
Le procès autour de l'affaire dite de la sextape et de Benzema et de Valbuena va reprendre. Juste une chose, Nabil, quel effet ça peut avoir sur un tel joueur, vu que l'histoire traîne depuis aussi longtemps? Est-ce que on peut se dire il est blindé moralement, Benzema, en ce domaine?
Il sait que l'opinion publique française a basculé plutôt de son côté et est moins attentif à cette histoire, effectivement, judiciaire. Donc, le calendrier, effectivement, n'est pas le même. Bon, je pense évidemment que, ça ne peut pas ne pas jouer non plus du tout sur lui, parce que il y a aussi son honneur, sa dignité dans cette histoire, parce que lui estime qu'il est innocent. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui est important. Maintenant, si vous me posez la question de savoir est-ce que ça va influer sur le Ballon d'Or, non, je pense que c'est une question.
Je pense que c'est une question
franco-française. Messi, Ronaldo ou Messi a eu des problèmes de fiscalité, ça n'avait pas posé de problème de le voir Ballon d'Or. Maintenant, très sincèrement, je pense qu'il a hâte que ça se termine. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette histoire, elle est devenue à la périphérie, en fait, en quelque sorte, quoi. C'est une chronique judiciaire. Bon, après, il faut que justice soit faite, et ça, c'est normal. On est dans un état de droit. Ensuite, il vit en Espagne. Il faut pas non plus l'oublier. Donc, moi, j'imagine pas un impact important sur lui. Puis, comme vous avez dit à juste titre, il en a vu d'autres.
Quatrième meilleur buteur de l'histoire donc du club Real Madrid. Il est précédé par Cristiano Ronaldo, par Raúl et par Di Stéfano. Stéphano. Encore un résultat intéressant, ouais. David Lortolari, c'est celui de l'Ajax d'Amsterdam, ouais, face au Borussia Dortmund. Ils ont été tordus, les jaunes et noirs. Hein. Alors, c'est là qu'il y a eu un but qui a aussi peut-être un peu changé le cours du match. Marco Reus, qui est d'habitude buteur pour Dortmund, a inscrit un but contre son camp à la 11e minute. Et ça a peut-être fait sortir cette équipe des rails.
Oui, ça a mis ses coéquipiers à l'envers. Pire défaite de l'histoire de Dortmund dans cette compétition. Donc ça va être marquant. La presse allemande ce soir, pas tendre du tout. On parle de faillite, on parle de dilettantisme, des ballons perdus très tôt à Nice en défense dans la reconstruction des actions. Et Dortmund est certainement en partie très largement fautive sur le résultat du soir. Mais l'Ajax, peut-être aussi, on doit mettre un éclairage sur cette équipe.
Oui, bien sûr.
Et pas seulement parce que Sébastien Haller est très très fort avec cette équipe, parce que j'en parle parce
avec
que
la Côte d'Ivoire aussi.
Je l'ai vu progresser moi en Bundesliga évidemment à vitesse grand V, notamment avec Borussia Mönchengladbach. Mais là, le Borussia Dortmund a craqué trop tôt, a montré que sa défense était défaillante actuellement et que les équipes allemandes, le Bayer Leverkusen deuxième au classement a été pulvérisé par le Bayern ce week-end. Dortmund qui a pris le relais au classement derrière le Bayern est baladé ce soir par l'Ajax. Mauvais signal.
Mauvais signal. Et l'Ajax Amsterdam est premier de ce groupe C devant le Borussia Dortmund, hein, qui est quand même toujours en piste avec 6 points.
Se qualifier, oui.
Derrière, il y a le Sporting Portugal et Beşiktaş. Sporting Portugal qui a battu le Beşiktaş sur le score de 4-1. Profitant de votre présence ici, on en a terminé pour ce qui est de tous les matchs de la soirée. On y reviendra un petit peu demain dans Radio Foot International. Mais je voulais profiter de votre présence, David Lortolari. On vous donne 1 minute 15.
Pas de problème.
Le Bayern Munich se dit un des prétendants au titre. Hein, Upamecano a déclaré aujourd'hui en conférence de presse, avec le Bayern, nous voulons tout gagner. Nous ferons tout pour ça, mais d'abord, il faut se concentrer sur le match de demain. Donc, c'est le match à Lisbonne. Cette équipe qui vient d'infliger un 5-0 à son poursuivant 5-1
exactement,
pardon,
ouais.
5-1 contre le Bayer Leverkusen au cours du week-end avec Robert Lewandowski. Est-ce que cette équipe est un vrai challenger par rapport aux équipes qu'on a vu jouer ce soir?
Oui, bien sûr, parce que l'intégration de ce jeune entraîneur avec ses idées neuves, avec
Nagelsmann, hein.
Voilà, on se disait que bon, peut-être que ça allait être un peu, ça allait faire quelques étincelles. Ça marche pour le moment très bien. L'équipe effectivement est très performante, très impressionnante. De manière qu'en Allemagne, il y a un peu deux championnats. Il y a ce championnat du Bayern tout seul face à ses propres records, et puis le championnat des équipes en dessous de lui. Et surtout, pour faire écho à ce qu'on disait sur le Paris Saint-Germain dans la première partie de l'émission, Annie, voilà une équipe qui se met systématiquement à l'heure Ligue des Champions, en mode Ligue des Champions, collectivement, à chaque rencontre et quel que soit l'adversaire dans cette compétition. Les Kimmich, les Goretzka, les Gnabry, Sané aussi désormais, les Lewandowski bien sûr, Neuer, on les connaît, tous ces joueurs se mettent en mode Ligue des Champions, quel que soit l'adversaire, et donc on peut s'attendre à ce que non seulement ils se qualifient sans histoire, mais qu'ils soient, ça c'est encore loin, mais pour la suite de la saison, un candidat sérieux.
C'est la fin, vous entendez le générique, on était bien calé sur cette hymne de la Ligue des Champions. Merci beaucoup,
merci
messieurs,
Annie,
de nous avoir aidé à décrypter cette soirée de Ligue des Champions. On s'est même projeté sur celle de demain. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain l'a remporté sur le score de 3-2 ce soir. C'était chaud, mais c'est passé. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.